Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Bertrand Badi est notre invité à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, L'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale. Bertrand Badi, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, expert en relations internationales et auteur d'une trentaine de livres. Les États-Unis incarnent depuis plusieurs décennies l'hégémonie la plus poussée qui soit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, non sans critique pour dénoncer l'impérialisme américain ou des manquements aux obligations afférentes au rôle d'hégémon. Élu il y a 3 ans, Donald Trump a d'entrée de jeu fait savoir qu'il s'occuperait d'abord de ses propres intérêts avant ceux de la communauté internationale. Les regards se sont alors tournés vers la Chine, des regards interrogatifs autour de la question de savoir si Pékin allait se substituer à Washington et incarner une nouvelle forme d'hégémonie mondiale, nous en parlerons. Pour commencer, peut-être un retour aux définitions. Hégémonie, de quoi s'agit-il? De puissance, de domination, de prédominance?
Alors, vous avez raison de commencer par la définition parce que c'est un concept très exigeant, très précis, et il est employé un peu, si vous me permettez l'expression, à toutes les sauces. C'est un des plus vieux mots du vocabulaire politique. Hégémonie est un concept forgé par Thucydide, 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui a donc eu une longue carrière en même temps scientifique, politique et polémique, c'est-à-dire au-delà de la description, c'est aussi une invective, c'est aussi un projet, c'est aussi la contestation d'un projet. Alors arrêtons-nous sur ce que cela veut dire. La racine est grecque, puisqu'il y a Thucydide à son origine, et la racine veut dire conducteur, l'hégémon, c'est celui qui conduit, c'est celui qui est en tête. C'est la première caractéristique, c'est le premier élément de la définition. Deuxième élément de définition, c'est aussi quelqu'un qui ne se contente pas de conduire, mais qui produit un ordre et est capable de le garantir. C'est-à-dire qu'il y a un côté architectural dans l'hégémon. Quelqu'un qui, sur le plan international, va façonner, définir l'ordre international, les rapports de force, les normes, les pratiques, et qui va être le gendarme discret, ou plus ou moins discret, du monde. Et puis, troisième caractéristique qu'on oublie souvent, l'hégémon, c'est aussi celui qui bénéficie de l'adhésion volontaire de ceux qui le suivent. Alors, revenons à l'histoire. Quand Thucydide a inventé le concept d'hégémon, c'est pour parler de la Ligue de Délos, qui s'était formée, donc, vous savez dans quelle ambiance, menace perse sur le Péloponnèse, et donc les cités grecques supplient Athènes de prendre la tête d'une vaste coalition destinée à contenir ce danger. C'est pas une domination qui s'impose, c'est un appel qui est fait par les cités grecques à la cité athénienne jugée meilleure, plus compétente, rassurante, protectrice. Et donc, il y a une logique d'adhésion que d'ailleurs, bien des siècles après, le philosophe et homme politique italien Gramsci reprendra à son compte pour définir l'hégémonie comme étant cette adhésion volontaire à des normes et des valeurs. Donc, voilà ce que c'est l'hégémonie, c'est cette pratique d'un conducteur, producteur d'un ordre international et disposant d'une adhésion volontaire des autres. Vous voyez que c'est très exigeant, et la thèse que je développe dans ce livre, c'est de dire, mais dans le fond, ça ne s'est jamais réalisé, ça ne s'est jamais accompli dans l'histoire, et vous avez raison de signaler que le moment où on avait l'impression de toucher enfin au but et à la réalisation du processus, ça a été la guerre froide, parce que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'hégémon américain avait toutes les vertus. Il était puissant, sa puissance s'était révélée efficace face à l'Allemagne nazie, et s'était révélée bonne, puisqu'elle avait délivré le monde de ce monstre que constituait le nazisme. Donc, il y avait en même temps l'efficacité et l'éthique du côté des États-Unis, et cet engouement extraordinaire pour l'Amérique qui avait suivi la Seconde Guerre mondiale, du jazz jusqu'à Coca-Cola et en passant par quantité d'autres intermédiaires. Tout ceci donnait l'impression qu'enfin, 25 siècles après Thucydide, l'hégémonie se réalisait. Que nenni.
Alors, précisément, vous dites que l'hégémonie est un mythe. Alors, j'aimerais comprendre la démarche qui vous a conduit à cette conclusion que tout ça ne s'est finalement jamais complètement produit. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, c'est le mot confiance dans cette définition aussi de l'hégémon et de ce qu'il faut aussi pour créer cette hégémonie. Alors, vous avez dans votre ouvrage, Bertrand Badi, vous invitez le lecteur, et peut-être que vous vous êtes invité vous-même à le faire, invité à regarder d'en bas, comprendre la domination depuis le logis des dominés, considérer l'hégémonie du point de vue de ceux qui ont à la subir. C'est comme cela que vous avez déterminé et conclu au mythe de l'hégémonie ?
Alors d'abord, au départ, un étonnement empirique. C'est pourquoi les États-Unis ont-ils perdu pratiquement toutes les guerres depuis 1945, sauf les grandes coalitions onusiennes, comme par exemple Tempête du désert en 1991. Pourquoi cette mise en échec perpétuelle des États-Unis ? Pourquoi ce grand président qui a été Barack Obama a dû admettre que le leadership militaire américain était terminé ? Pourquoi Trump, qui déteste Obama sur ce point bien précis, a continué sa politique, c'est-à-dire considérer que l'intervention n'était plus de mode et était même contraire aux intérêts américains. Et cet étonnement m'a amené à relativiser, dans la mesure où, regardant en arrière, vous savez, quand on veut comprendre l'actuel, il faut toujours interroger l'histoire. J'ai essayé de montrer, c'est le début de mon livre, que toutes les tentatives hégémoniques auparavant s'étaient soldées par un échec. Thucydide lui-même montre comment l'hégémonie athénienne s'est en quelque sorte décomposée et s'est transformée en coercition, le fameux dialogue des Méliens, et puis ensuite comment Charles Quint, Louis XIV, Napoléon avaient des rêves hégémoniques qui ne se sont jamais réalisés. Donc il y a eu cet étonnement, mais au-delà de l'étonnement, comme je suis professeur de sciences politiques, professeur de relations internationales, il y a ce concept qui devenait gênant parce que le concept d'hégémonie, il a un statut presque central dans la science politique mondiale. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des relations internationales, la première question qu'on se pose sur une séquence historique, qui à ce moment-là était l'hégémon ? Et de même, aujourd'hui, vous avez autour notamment de la thèse très contestable et que j'essaye de contester dans ce livre de Graham Allison, l'idée que si les États-Unis tombent, c'est la Chine qui va leur succéder. J'ai essayé de démonter tout cela et de montrer que, évidemment, il ne faut pas gommer l'idée d'hégémonie. Pourquoi il ne faut pas la gommer ? Parce qu'elle est dans la tête des gens. C'est pour ça que je parle de mythe. Vous savez ce que c'est qu'un mythe ? C'est quelque chose qui ne se réalise pas, mais qui est performatif, c'est-à-dire qui conduit l'acteur à agir comme si c'était possible. Et regardez l'histoire, ça a toujours été ainsi. Il n'y a jamais eu d'hégémone, mais il y a toujours eu des tentatives d'hégémonie. Donc ces tentatives d'hégémonie, il faut les comprendre, pourquoi elles viennent, pourquoi elles se font, et il faut ensuite voir pourquoi elles ne s'accomplissent jamais. Et c'est ça qui m'a guidé, c'est la raison pour laquelle toute ma première partie est historique et qui nous amène à cette époque contemporaine qui est la nôtre, qui est tout à fait saisissante parce qu'on a l'impression qu'avec notre époque, c'est la vérité qui se dévoile. C'est-à-dire, jamais on a été si proche de l'hégémonie, mais jamais non plus on a vu de manière aussi manifeste l'hégémonie mise en échec. Regardez l'humiliation de Trump en Syrie, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire.
On y reviendra bien sûr. Alors pourquoi l'hégémonie ne s'accomplit jamais ? Est-ce parce que il arrive un moment où finalement l'hégémonie se met à coûter cher, Bertrand Badi, et que l'hégémon finalement voit tous les éléments, ou en tout cas les éléments négatifs apparaître. Alors pour ce qui est du début de l'érosion de l'hégémonie américaine, vous la situez à 2013, c'est le tournant lorsque Barack Obama, prédécesseur donc de Donald Trump, décide de ne pas intervenir en Syrie malgré le franchissement de la ligne rouge par Bachar el-Assad avec l'usage d'armes chimiques.
Oh, je crois que ça commence bien plus tôt. Ça commence peut-être au Vietnam. Et pourquoi je pense au Vietnam ? Parce que je pense à ces propos que Chuen Lai avait tenus à Gamal Abdel Nasser et qui sont rapportés par Hassanan Haykal, disant « Mais finalement, moi je suis favorable, nous explique Chuen Lai, est-ce que les États-Unis renforcent leur présence au Vietnam et continuent à accumuler des armées parce que plus ils s'adonneront à cette guerre et plus ils perdront. Et j'ai l'impression que le grand homme chinois, qui est quand même l'inventeur de la diplomatie chinoise moderne, avait eu cette prescience que l'hégémonie est quelque chose de coûteux. Et peut-être est-ce cette logique qui est en train de se dévoiler. Mais vous savez, cette logique, elle se dévoile aujourd'hui pour quantité de raisons, notamment parce que la mondialisation favorise ce dévoilement de la réalité, mais elle est vieille. Quand je parlais de Charles Quint et de Louis XIV, c'était un peu la même histoire. Si on se limite à la séquence qu'on appelle westphalienne, c'est-à-dire notre histoire européenne au-delà du Moyen-Âge et avec la Renaissance, on voit que la puissance n'a pas tellement été faite pour construire l'hégémonie, mais pour arrêter la puissance de l'autre. C'est ça le grand paradoxe des relations internationales. C'est-à-dire, vous accumulez des ressources de puissance en imaginant que ça vous permettra d'être l'hégémone, mais dans la réalité des faits, l'essentiel de votre puissance, elle est destinée à contrer l'adversaire. Et c'était vrai pendant la guerre froide. C'est-à-dire, on avait l'impression, là, d'une réalisation hégémonique des États-Unis, parce qu'ils menaient très loin, effectivement, la mobilisation des ressources de puissance, mais en fait, c'était plus pour arrêter la puissance soviétique que pour véritablement dominer le monde, ce qu'ils ne parvenaient pas à faire. Et quand l'URSS est tombée, il n'y avait plus rien à arrêter, et donc, le mythe hégémonique américain s'est dégonflé.
Alors finalement, Bertrand Badie, après ce retour et cette étude attentive de l'histoire à laquelle vous procédez dans votre ouvrage, de Charles Quint à l'Angleterre victorienne, de la décolonisation à la guerre froide, vous montrez donc que l'hégémonie ne s'est jamais totalement accomplie et jamais sans ambiguïté. Que serait finalement une hégémonie totalement accomplie et ambiguïté ? De quoi est-il question ?
Alors, totalement accomplie, ça correspond à ma définition. C'est-à-dire imaginer un monde où un leader serait capable de définir les contours du système international, de définir ce qu'est l'ordre international, de protéger sa reproduction, en quelque sorte, et d'obtenir l'adhésion spontanée de tout le monde. En disant cela, on ne fait que décortiquer le concept d'hégémonie, mais on se rend compte en même temps de la quasi-impossibilité de la chose. C'est la raison pour laquelle la quête hégémonique relève, comme je l'ai dit, du mythe. Alors, pourquoi tout ceci ne s'accomplit pas ? Parce que, à mesure que le monde se globalise, il se diversifie, les attentes des acteurs sont différentes, les cultures sont différentes, le mythe de l'uniformisation du monde tend à disparaître. On pouvait, à la rigueur, uniformiser l'Europe de la Renaissance. C'était d'ailleurs l'illusion de Charles Quint. Charles Quint jouait une pièce qui était assez intéressante, qui consistait à dire « Je suis l'héritier du Saint-Empire romain germanique et je vais transformer mon autorité impériale en une hégémonie moderne. » C'est-à-dire, c'est le passage de la tradition à la modernité. C'était possible parce que ces gens étaient cousins entre eux, ils parlaient pratiquement la même langue et ils avaient la même religion et ils partageaient la même histoire. Comment voulez-vous que ce partage se fasse dans un monde où un coin vous avez la Chine, un autre vous avez l'Afrique, un troisième le Moyen-Orient et un quatrième le vieux monde occidental? Ce n'est pas possible. Cette diversification crée des dynamiques centrifuges qui, très vite, ont raison des prétentions hégémoniques.
Donc c'est la mondialisation, finalement, qui met un terme à l'hégémonie.
Oui, d'autant qu'il faut jamais oublier que la mondialisation, c'est d'abord et avant tout l'interdépendance. Si c'est l'interdépendance, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que le faible continuera à dépendre du fort, mais ça veut dire que désormais, le fort dépend du faible. Et le problème auquel se trouvent confrontés les États-Unis aujourd'hui, c'est exactement cela. C'est-à-dire les États-Unis sont de plus en plus dépendants de plus petits qu'eux. Et à partir du moment où ils sont dépendants de plus petits qu'eux, ils ne peuvent pas exercer leur hégémonie. Et surtout sur le terrain, on le voit aujourd'hui avec l'affaire turco-syrienne, sur le terrain, prime est désormais donnée à l'acteur local. Et du coup, cela handicape d'autant les puissances mondiales qui interviennent de l'extérieur. Ça, c'est fini. Le temps de l'intervention de celui qui est à des milliers de kilomètres sur un territoire qui n'est pas le sien, c'était possible du temps de la colonisation de la guerre froide, ça ne l'est plus aujourd'hui. Ça, c'est une histoire finie. Et nous vivons en direct le dernier souffle de cette projection mondiale de celui qui prétend à l'hégémonie.
Alors, vers quoi va-t-on? On y reviendra bien sûr, mais très concrètement, puisque vous abordez ce sujet, je propose qu'on aille un tout petit peu plus loin. Les États-Unis, puissance hégémonique verticale, c'est-à-dire géographiquement, j'entends, voilà, un monde partagé en tranches, pour ainsi dire. Les États-Unis avec l'Amérique latine, la Chine dans sa région. Après ça, il restera bon, le Moyen-Orient. Les choses se redessinent complètement. Retour de la Russie, Bertrand Badi. Volonté hégémonique de la Turquie. Très probablement, pour revenir à l'Empire ottoman, et puis reste l'Europe avec l'Afrique. Mais c'est un peu comme cela que vous voyez les choses, sorte de compartimentation.
Ça veut dire, premièrement, prime aux puissances régionales par rapport aux puissances mondiales. Et je crois qu'on a sous-estimé cet éveil des puissances régionales. Et vous les avez énumérés. On pourrait continuer, le Brésil en Amérique, l'Afrique du Sud dans l'Afrique australe, etc., etc. Deuxièmement, ça veut dire qu'effectivement, cette mise en échec de l'hégémonie se traduit par une fragmentation de fait de l'espace mondial. C'est-à-dire on passe d'un monde unifié à un monde fragmenté, ce qui est paradoxal dans un temps d'interdépendance. Et troisième élément, cela veut dire qu'effectivement, l'hégémonie est un pari conjoncturel. C'est-à-dire que c'est en fonction des crises qui se développent ça et là que se recomposent ces hégémonies régionales avec une prime, encore une fois, à l'acteur local, mais une prime qui ne vaut pas assurance. C'est-à-dire, l'acteur régional peut être à son tour défait. Après tout, le Brésil a été mis en échec en Amérique latine, où les autres États ont fait preuve d'une réaction nationaliste, d'autres États latino-américains, et on pourrait ainsi continuer la mise en difficulté de l'Afrique du Sud en Afrique, etc. C'est-à-dire que c'est un enjeu, ce n'est pas une réalité. Mais c'est vrai qu'effectivement, cette dialectique de la fragmentation et de l'interdépendance devient l'élément majeur de nos relations internationales aujourd'hui.
Alors, Bertrand Badi, de puissance hégémonique, vous dites que les États-Unis se sont transformés en l'espace d'une élection, celle de Trump, 2016, en puissance contestataire, fustigeant pêle-mêle la mondialisation, le multilatéralisme, voire la coopération, et a fortiori la solidarité. La contestation, c'était plutôt l'arme du faible.
Mais c'est justement un autre paramètre de nos relations internationales, la revanche du faible. Pourquoi parle-t-on de revanche du faible? D'abord parce que je parlais tout à l'heure d'interdépendance. L'interdépendance, c'est un fait, c'est-à-dire en matière d'approvisionnement, en matière première, en matière de stabilité économique globale, en matière de stabilité politique globale, en matière de conflit, c'est de plus en plus le faible qui est au centre de l'échiquier et le puissant d'hier qui est en position réactive et souvent interrogative. Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais pouvoir m'adapter à ce nouveau monde avec tout un tas de maladresses dont l'intervention militaire est l'illustration la plus saisissante. Donc il y a une montée en capacité de la faiblesse. C'est-à-dire la faiblesse de plus en plus vient structurer l'agenda international. Ce qui nous met clairement dans une logique post-hégémonique et qui surtout va conduire celles et ceux qui vont vouloir exercer des formes nouvelles de domination internationale à s'adapter à cette situation de fait. Parce que si l'hégémonie est morte, évidemment la domination, elle demeure. Et ce qui est intéressant d'étudier, c'est ces formes nouvelles de domination qui viennent succéder, je dirais, à la naïveté hégémonique, c'est-à-dire ce grand leader messianique. Ça, c'est fini. La domination, qui oserait dire qu'elle est terminée? À partir du moment où on accumule des ressources, on cherche à dominer. À partir du moment où on accumule des besoins, regardez, la Chine, avant de se définir en termes de ressources de puissance, elle se définit en termes d'ampleur de ses besoins. Si on a des besoins à satisfaire, il faut les satisfaire dans le monde, c'est pas seulement à l'intérieur de la Chine. Et la mondialisation aide à cela. Et donc, tout le problème de la Chine, c'est pouvoir trouver à l'extérieur ses moyens de survie et, si possible, de prospérité, ce qui, inévitablement, la conduit à des logiques de domination. Domination régionale, on revient à la question de l'hégémonie régionale, et qui oserait contester que la Chine exerce en Asie orientale une position hégémonique régionale, mais position de la Chine aussi dans le monde, c'est-à-dire en Afrique, c'est-à-dire même en Amérique latine et de plus en plus d'ailleurs. Il suffit d'écouter les Argentins qui vous expliquent cette présence chinoise très activée. Le problème, c'est de savoir comment va s'organiser cette nouvelle domination internationale qui ne sera pas de l'hégémonie. Et au lieu de frissonner de peur devant la Chine, on ferait mieux de s'interroger sur ce qu'elle fait. Par exemple, les nouvelles routes de la soie, le OBOR, One Belt, One Road, c'est une forme nouvelle de domination qui va structurer notre aventure mondiale.
On reviendra sur la domination chinoise, Bertrand Badi, dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, nous retrouvons notre invité Bertrand Badi à l'occasion de la sortie de son dernier livre, L'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale, paru aux éditions Odile Jacob. Bertrand Badi, on a terminé la première partie de l'émission sur la Chine, avec la question de savoir comment la Chine allait organiser sa domination. Elle récuse toute prétention hégémonique, préférant se cacher derrière une étiquette de pays en développement. Est-ce qu'elle n'a pas la Chine le désir de se substituer aux États-Unis et comment envisage-t-elle de le faire ?
Alors, sur des sujets pareils, il faut faire une confiance limitée à l'acteur. C'est-à-dire, ce qu'il dit n'est pas forcément ce qu'il pense, mais ce qu'il veut que les autres pensent. Donc, soyons prudents. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont certaines et que l'analyste doit avoir en tête. La Chine a souffert de l'hégémonie et a même été de tous ceux qui ont subi la domination occidentale, le pays qui a le plus souffert de cette humiliation. Donc c'est quelque chose de très présent dans la mémoire chinoise. Deuxième différence, et qui est fondamentale, c'est que la Chine n'est pas porteuse d'une réflexion ni d'une culture universalisante. C'est-à-dire que la Chine n'est pas inscrite dans un univers messianique. La Chine ne cherche pas à universaliser, à siniser le monde. Autant l'Occident a cherché à faire le monde à son image, et ça a été le projet colonial et ensuite néoconservateur, la Chine n'est pas dans cette perspective. Et troisième idée, c'est ce que j'avançais tout à l'heure en me référant à Chou Enlai, les dirigeants chinois ont toujours analysé l'hégémonie occidentale et en particulier l'hégémonie américaine, comme une opération assez peu rationnelle et assez peu économique. Donc il y a une critique assez vive et assez, je dirais, rationaliste et raisonnable de l'hégémonie. C'est la raison pour laquelle je ferai le pari que la Chine ne projette pas sincèrement de reproduire un modèle dont elle a dénoncé non seulement l'injustice, mais aussi et surtout l'irrationalité. Pourtant, la Chine cherche à dominer, a besoin de dominer pour s'approvisionner. Et je pense que l'un des éléments essentiels de cette forme nouvelle de domination que la Chine, plus ou moins explicitement, cherche à accomplir, c'est le découplage de l'économique et du politique. C'est-à-dire une présence économique tous azimuts, sans cesse renforcée, et une discrétion politico-militaire. J'observe par exemple que la Chine ne cherche surtout pas à s'impliquer dans les conflits régionaux, ceux du Moyen-Orient, du Grand Moyen-Orient, c'est-à-dire de l'Afghanistan jusqu'à la Syrie ou le Yémen, ou dans les conflits africains, où pourtant l'Afrique est très présente.
On ne l'entend pas, la Chine, elle est très silencieuse.
Voilà, et ce silence fait sens, c'est-à-dire il correspond à quelque chose de très profond, qui au-delà même du militaire, va vers le politique, c'est-à-dire vous êtes ce que vous êtes, y compris d'ailleurs quand on s'adresse aux pires dictateurs, et on va s'accommoder avec vous, on cherche à faire marcher avec vous et pas de vous éduquer politiquement, ça ne nous intéresse pas. Alors ce qui est intéressant, c'est de suivre ce modèle nouveau, inédit. Parce que si vous réfléchissez à la longue histoire occidentale, toutes les formes d'hégémonie pratiquées, expérimentées en Occident, ont toujours mêlé l'économique, le politique et le militaire. Et le projet colonial était notamment au centre de cette fusion. Cette fusion, elle n'existe pas dans la pensée chinoise. La grande question qui se pose, c'est de savoir s'ils tiendront le coup. C'est-à-dire si, à mesure que la Chine est présente un peu partout dans le monde pour des raisons économiques, elle n'est pas obligée, même contre son idée de départ, de déployer des ressources militaires. Après tout, le budget militaire chinois ne cesse d'augmenter et les bases militaires chinoises tentent se développer, regardez notamment Djibouti, mais aussi le port de Gwadar au Pakistan, et on pourrait continuer. Ce que disent les dirigeants chinois, c'est il s'agit de protéger la route, il ne s'agit pas de conquérir le monde sur le plan militaire. Je ne sais pas, mais je pense qu'il est sérieux de ne pas tenir la reproduction de la ritournelle hégémonique pour quelque chose de certain. Et en tous les cas, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Et la grande erreur de l'Occident, c'est de traiter la Chine comme si c'était le nouveau candidat à l'hégémonie. Alors tous les clichés y passent. On parle de déclin américain alors qu'il n'y a pas de déclin américain, de phénomène cyclique alors que rien ne permet de dire que l'histoire soit cyclique, d'une Chine qui a des prétentions hégémoniques alors que si elle a des prétentions de domination, elle ne se loge pas dans le modèle hégémonique. Il faut avoir un regard critique vis-à-vis de tout cela et il faut surtout savoir ce que ne savent pas du tout faire les vieilles puissances, il faut savoir construire un partenariat original avec la Chine. Il ne s'agit pas de contenir la Chine, l'histoire ne s'est jamais faite en contenant l'autre, mais en se projetant soi-même, en inventant, et il faut inventer des formes nouvelles de partenariat avec la Chine. Un exemple, nous sommes l'otage du principe d'extraterritorialité du droit américain et nous sommes l'otage notamment de l'universalité du dollar comme monnaie de transaction. On peut, avec la Chine, construire un partenariat monétaire qui permettrait de faire du yuan et de l'euro, par exemple, des monnaies d'échange de substitution. Au lieu de se regarder en chien de faïence, il y a peut-être des choses à faire dans cette direction. La Chine s'est convertie, je crois de façon sincère, parce qu'elle n'a pas le choix, à un travail de protection de l'environnement. Il y a beaucoup à faire parce que la Chine est un grand pollueur et la Chine s'aperçoit qu'elle risque de s'asphyxier si elle ne le fait pas. Donc tout ça est pleinement rationnel. Bah, il y aurait des choses à faire en matière de politique globale de protection de l'environnement avec les partenaires chinois. Ça se fait un petit peu en Afrique, hein. On commence à avoir des projets communs sino-européens en la matière. Mais c'est tout petit. Il y a là plein de choses à développer et qui montrerait que finalement on n'est pas dans l'inéluctabilité de ce cycle de l'hégémonie. Vous savez, la Chine a une autre mémoire que la mémoire occidentale. Elle a une mémoire impériale, mais pas une mémoire hégémonique. Et il faut savoir que, du coup, les voies qui en dérivent ne sont pas exactement les mêmes.
En tout cas, pour résumer ce que vous venez de dire, Bertrand Badi, de nouveaux modèles à inventer et un partenariat original avec la Chine. On va se projeter un tout petit peu. 2020, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance de nombreux pays africains. Comment expliquez-vous que nulle domination coloniale n'ait perduré, que les hégémons les plus expérimentés ont été mises en déroute comme ils l'ont été. Alors, mises en déroute, mais pas disparition, puisqu'on a vu les anciennes puissances mettre en place des structures post-coloniales destinées à faire survivre les vieux mécanismes hégémoniques. Il y a le Commonwealth pour le Royaume-Uni, les accords de défense informellement prolongés par la France-Afrique, Africom, véritable commandement militaire pour l'Afrique du côté des États-Unis. À quoi s'ajoutent les efforts récents de la Russie pour poser un pied botté en Afrique, Bertrand Badi?
Alors, d'abord, il faut avoir à l'esprit que le premier défi sérieux porté aux formes contemporaines d'hégémonie, ça a été la décolonisation et les guerres de décolonisation. Et ça a été le premier moment où le faible a montré sa supériorité sur le puissant. Il y a peut-être une date à consacrer de ce point de vue-là, 1954, Dien Bien Phu, où l'armée française a été battue par plus petite qu'elle-même. Tout simplement parce que commençait alors à pivoter ce grand arrangement du monde, à savoir que le faible disposait désormais de ressources que le puissant n'avait pas à sa disposition. Donc, toute l'histoire de la décolonisation est l'histoire de l'ascension de cette logique d'inversion que je décrivais tout à l'heure. Deuxième élément malheureux, c'est que la décolonisation, en fait, s'est très mal passée. Et ça a été un échec, d'abord parce que c'était un malentendu. C'est-à-dire que les grands émancipateurs du Sud, c'est-à-dire les Nkrumah, les Lumumba, mais aussi les Nehru, les Sukarno, enfin on pourrait les énumérer, les grands émancipateurs étaient des émancipateurs et non des bâtisseurs d'État. C'est-à-dire que la décolonisation a réussi l'œuvre d'émancipation, mais a échoué dans le projet, qui était d'ailleurs extrêmement difficile à mener, de construire de nouveaux États. Donc ces États sont nés dans la faiblesse et dans l'autoritarisme. Ce qui explique que la plupart des conflits d'aujourd'hui, c'est-à-dire la plupart des conflits d'aujourd'hui, notamment en Afrique, sont issus des erreurs ou des inattentions qui ont accompagné la décolonisation. Alors ça a été en même temps une mise en échec de l'hégémonie, une aubaine, cet échec, pour reconstituer des logiques et des pratiques hégémoniques postcoloniales, c'est ce que vous décriviez il y a un instant, c'est-à-dire cette espèce de néocolonialisme, cette clientélisation des faux nouveaux États du Sud. Et ça a été un échec aussi, et enfin, parce que ces États décolonisés, nouveaux, qui venaient peu à peu remplir les bancs des Nations Unies, n'ont jamais été associés réellement à la gouvernance mondiale. Et ça, ça a été la gaffe monumentale, c'est-à-dire que face à cette transformation des Nations Unies majoritairement sudiste, eh bien les vieilles puissances se sont reconstituées dans le mini-latéralisme. Le mini-latéralisme, son accomplissement le plus manifeste, c'est le G7, mais vous avez aussi les multiples groupes de contact à propos des conflits qui venaient à naître. Et du coup, ce mini-latéralisme, là aussi, semblait redonner vie au mythe hégémonique, mais celui-ci était plus mythe que jamais, parce que pouvait faire ce mini-latéralisme, ce club de sept États du vieux monde, face aux 186 autres États souverains, qui du coup se sont repliés dans des pratiques contestataire. Donc on a assisté à une prolifération de diplomatie contestataire, qui a commencé à Bandung, puis le mouvement des non-alignés, puis la conférence d'Alger, le groupe des 77. Évidemment, il n'y a plus d'hégémonie possible lorsque 80% des États du monde sont des États contestataires. Et c'est là que la contestation se révèle plus forte que l'hégémonie.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors Bertrand Badi, très rapidement, et on va parler de ce qui se passe à la frontière turco-syrienne, mais rapidement, puisque nous sommes en Afrique, les opérations extérieures françaises, la question qui peut se poser est de savoir si elles sont motivées ou pas par un désir hégémonique. En tout cas, vous êtes très critique. Vous estimez que ces actions aident les pouvoirs en place à persister dans l'erreur.
Oui, tout à fait. C'est ce que j'appelle l'effet Dunning-Kruger, c'est-à-dire plus on échoue, plus on croit en ses capacités. C'est-à-dire, il n'y a pas une intervention du vieux monde dans le Sud qui est réussie. Et pourtant, on continue, on renforce et on ne cherche même pas d'alternative. Alors que l'on est aveugle sur moi ce qui est ma lueur d'espoir, c'est-à-dire l'extraordinaire vitalité de la nouvelle génération africaine qui, peu à peu, impose sa vision indépendamment des vieux schémas tiers-mondistes ou importateurs qui ont accompagné la décolonisation. Il y aurait là toute une renaissance, notamment de l'Afrique, sur laquelle travailler et à encourager, alors qu'au contraire, on continue à envoyer des chars et donc faire le jeu des entrepreneurs de violence, les Acmi, Boko Haram et autres en sardine, etc. Ce paradoxe montre bien que l'hégémonie est un mythe, c'est-à-dire quelque chose qui ne se réalise pas, mais auquel on continue à croire, à adhérer et à concentrer ses efforts. Donc, c'est effectivement l'une des grandes faiblesses de notre ordre international aujourd'hui, ne pas savoir s'adapter à ce nouveau monde.
Bertrand Badi, la frontière turco-syrienne, le départ des Américains, lâchage des Kurdes syriens. Quel regard portez-vous sur cette décision américaine, sur l'attaque que conduit la Turquie depuis le départ des États-Unis et la position de la Russie, le grand retour de la Russie dans cette région?
Soyons prudents. La première des leçons, c'est la validation de l'hypothèse que l'hégémonie n'est plus possible. C'est-à-dire que plus une puissance est éloignée du cratère, moins elle est capable. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Regardez, qui aurait pu imaginer que les États-Unis n'aient plus qu'un bout d'orteil sur le terrain syrien et soient obligés même de le retirer aujourd'hui. Et chacun sait que ce ne sont pas les 1000 hommes des forces spéciales américaines qui auraient pu inverser le cours des événements. Mais ne tombons pas dans la facilité. La Russie est peut-être un vainqueur à la Pyrrhus dans la situation, dans le contexte d'aujourd'hui, parce qu'elle voit les États-Unis s'éloigner, donc c'est bon à prendre. Mais la Russie ne vit et n'existe au Moyen-Orient que par le biais des puissances régionales avec lesquelles Poutine a eu la sagesse, l'intelligence, l'habileté de se lier. C'est-à-dire en inventant le triangle Moscou-Ankara-Téhéran, les processus de Sochi et d'Astana, la Russie s'est donné un moyen de survie au Moyen-Orient par le truchement de ses puissances régionales, alors que les États-Unis ont ignoré ces puissances régionales, ont même essayé de les étouffer. Regardez ce qui se passe dans les relations entre les États-Unis et l'Iran, c'est tout à fait remarquable, et du coup n'existe plus au Moyen-Orient. Ce qui veut dire que les puissances régionales s'en trouvent confortées. Et pourquoi M. Poutine critique l'intervention turque, mais en même temps menace de son veto les résolutions du Conseil de sécurité et continue à ménager Erdogan? Parce que je pense que Poutine a plus besoin d'Erdogan que Erdogan n'a besoin de Poutine. Et ça, c'est le nouveau modèle. Alors, n'aboutissons pas pour autant à cette conclusion trop rapide qui serait le triomphe d'Erdogan, parce que sa fragilité va se mesurer lorsque l'on va arriver à l'autre versant. C'est-à-dire pas seulement détruire des Kurdes et envoyer ses chars contre ces malheureux Kurdes qui sont les tristes dindons de la farce, mais lorsqu'il faudra reconstruire un ordre politique. Parce que en filigrane, c'est ça. C'est-à-dire, la Syrie est en guerre depuis 8 ans et demi. À quoi va ressembler l'État syrien post-guerre si enfin cette guerre vient à s'achever? Et là, les choses ne sont pas écrites du tout. Pénétrer dans une bande territoriale du nord de la Syrie, c'est possible à qui dispose de chars. Pouvoir définir le nouvel ordre syrien, là, M. Erdogan n'a pas forcément les meilleures cartes dans la main, ce qui prouve que même si les hégémonies régionales sont plus fortes que les hégémonies mondiales, elles sont limitées dès qu'il s'agit de tracer un nouvel ordre politique, ce qui fait que par rapport à la définition que je donnais tout à l'heure, on est encore loin de l'accomplissement hégémonique. Il faut savoir que ces conflits ont un enracinement social extrêmement fort. Et si on ne sait pas jouer avec cette grammaire de l'enracinement social de ces conflits, c'est-à-dire pouvoir traiter les enjeux sociaux qui sont derrière et les acteurs sociaux qui les animent, on n'arrive pas à grand-chose.
Ça, c'est un parallèle qu'on pourrait faire avec la situation en Afrique.
Totalement. Et vous savez que je répète toujours cette phrase du directeur du musée de Gao qui m'avait dit, le proverbe Bambara explique qu'on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. L'hégémon, c'était ça. L'hégémon, c'est un barbier diplômé qui rase la tête de tout le monde, mais en l'absence des personnes intéressées, si bien qu'il arrive à rien du tout.
Très rapidement, Bertrand Badi, l'Europe, la relation de l'Europe avec les États-Unis. Vous évoquez l'idée que le mythe hégémonique survit par la force de l'addiction. C'est ce dont l'Europe souffre avec les États-Unis.
Écoutez, moi je suis persuadé qu'il y a en Europe une profonde nostalgie du temps de l'hégémonie presque réalisée des États-Unis. D'ailleurs, je commence mon livre par plusieurs citations d'un discours tenu par Laurent Fabius à l'automne 2013, lorsqu'il se plaignait amèrement du refus américain d'intervenir en Syrie, et où il explique que s'il n'y a plus d'hégémonie américaine, le monde va vers une déstabilisation croissante. Il y a en Europe, d'une part, une peur panique de la disparition de l'hégémon américain, et d'autre part une incapacité d'en assurer la substitution. C'est-à-dire l'Europe sait qu'elle est trop divisée pour pouvoir construire une défense et une politique étrangère unifiée, et il y a l'idée finalement que l'hégémonie américaine, c'était plus coûteux pour les Américains que pour les Européens, pour qui c'était tout bénéfice. Et je crois que l'Europe sortira de sa torpeur lorsqu'elle admettra que l'on peut construire une diplomatie mondiale hors de la reconstitution d'hégémonies qui sont maintenant totalement impossibles.
Alors, très rapidement, en guise de conclusion, Bertrand Badi, on évoquait les mouvements de contestation qui aujourd'hui ont cours, à commencer d'ailleurs par l'hégémon américain qui conteste tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tout ce qu'il a lui-même créé. Vous dites que la posture contestataire marque finalement finalement, non la disparition de l'hégémonie, mais plutôt son inconsistance. On boucle la boucle d'une certaine manière.
Oui, je pense que ce parachèvement contestataire, c'est d'abord la démonstration par l'évidence que l'hégémonie est impossible, mais surtout la démonstration que l'histoire fonctionne davantage à coup de contestation qu'à coup d'accomplissement. C'est-à-dire, c'est dans la force de contester qu'on trouve des formules nouvelles. C'est la raison pour laquelle toute ma foi va vers ces pays nouveaux du monde, et singulièrement l'Afrique, où on voit que derrière cette contestation d'une hégémonie qui n'a pratiquement plus de vitalité, il y a la formation d'utopies nouvelles. Ces utopies qui sont portées par la contestation, c'est celles qui font l'histoire.
Merci Bertrand Badi. Je rappelle le titre de votre dernier livre, L'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale, qui vient de paraître aux édition Odile Jacob. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Nathalie Laporte et Véronique Durand. À demain.